je sais qu'on enregistre sur Raya, mais moi je viens de finir de voir Loki numéro 1, et du coup j'avais envie de parler de Loki.
Ah, mais je l'ai pas encore vu. Peut-être que je me le regarde ce soir, je ne sais pas, mais...
Ah, t'as intérêt, faut qu'on en parle.
Oui, oui,
je t'attends.
Mais j'ai trop hâte. Mais là, je suis avec ma cousine, elle me dit « Ah, mais non, moi j'attends machin pour le regarder avec elle. » Je suis genre « Ah, mais... » Bon, tant pis, je me regarderai toute seule dans la chambre. Bienvenue sur le canapé de Popcorn Therapy. Servez-vous une tasse de thé, café ou une limonade bien fraîche et c'est parti pour une session blabla autour des séries et cinéma.
Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial. On parle de tout ce qu'il nous plaît en toute simplicité. Et aujourd'hui, on l'a mentionné, on va parler de Raya and the Last Dragon, ou Raya et le dernier dragon. Bon, ça va, la traduction, pour une fois, elle est plutôt fidèle.
Oui.
Donc, vous avez compris, c'est le dernier Disney qui est sorti exclusivement sur Disney+. On est très triste, on en reparlera dans la présentation du film.
Ouais.
Mais voilà, on a beaucoup aimé toutes les deux, spoiler alert, et on comptait en parler, mais pas qu'à deux.
Oui, puisque pour cet épisode, on a une invitée, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'invitée. Donc, bienvenue Clem.
Bonjour, merci.
On va faire comme si c'était pas la cinquième fois qu'on retente de lancer l'épisode.
On a eu quelques petits soucis d'enregistrement.
Oui. En tout cas, on est ravis de t'avoir pour plusieurs raisons. Déjà parce que tu nous as fait un magnifique cadeau. Tu nous as fait un nouveau logo tout beau. Donc merci. C'est vraiment...
Merci.
On est vraiment trop contents.
Avec grand plaisir.
Ah, il est magnifique. Hein.
Ah ouais. Franchement... Trop beau. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur ce nouveau logo. Et l'autre raison pour laquelle tu arrives dans cet épisode avec le parfait timing, c'est qu'il se trouve que deux des personnes autour de cette table virtuelle ont lancé un nouveau podcast avec d'autres personnes qui s'intitule « Il était un plus ». Donc, Charline et Clem, est-ce que vous voulez nous parler de ce nouveau podcast que j'invite tout le monde à aller écouter. Hein. Il est disponible partout maintenant, sur toutes les plateformes, donc allez-y. Et de quoi ça parle, donc, il était un plus? J'ai un petit doute là, avec le petit plus. Est-ce qu'il n'y aura pas de rapport avec ce dont on va parler aujourd'hui?
Vas-y, Charline.
Je te laisse en parler, Claire.
Hein? Alors, vas-y, comme c'est toi l'initiatrice du projet, vas-y.
Eh bien, écoutez, alors déjà, si vous voulez en savoir plus, moi, je vous invite à aller écouter l'épisode 0 d'Il était un plus pour avoir tout le petit débrief sur l'histoire de ce nouveau podcast. Et alors, on a reçu il y a quelques épisodes nos amis Tony et Olivier de Main Street Actu qui ont un super, super podcast vraiment de qualité. Et ils nous ont énormément aidés à nos débuts et on les remercie encore. Et puis, ils nous ont invités aussi à leur 50e épisode qu'on a piraté. Et c'est lors de cet épisode où, en parlant du futur de Main Street Actu, que j'ai eu effectivement cette idée, en fonction de ce que disaient Tony et Olivier, de démarrer un petit podcast affilié à Main Street Actu, voilà, un petit podcast complémentaire, spécialisé sur Disney+, et qui serait un peu complémentaire à Pop T aussi, hein, vu que bon, ouais. Pop T, on vole de nos propres ailes, même si on est très copains avec MSA. Nous, on parle ciné, un peu plateforme, parce que là, les cinés étaient fermés. Mais voilà, ça va être l'occasion de découvrir Disney+, d'une autre manière. Et j'ai la chance, effectivement, de le faire avec Clem, ici présente, mais également trois autres copains, Émilie, Cédric et Dada, que on salue d'ailleurs, à qui on fait plein de bisous.
Oui, et moi, ce que j'aime beaucoup là, dans l'idée de ce podcast, c'est que donc c'est totalement complémentaire et différent de Pop T, puisque là vous êtes complètement centré sur Disney+, mais vous choisissez des thèmes, parce que ça va être un podcast mensuel du coup, et vous choisissez des thèmes pour explorer un peu le catalogue de Disney+, donc ça permet de parler pas que de nouveautés du coup, de reparler aussi de films plus anciens, donc c'est vraiment, vraiment très chouette. Et donc le premier épisode, c'est sur la parentalité dans Disney, donc... Un chouette programme. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Clem, pour donner envie d'aller écouter ce premier épisode, notamment?
Vous avez déjà bien donné envie, je trouve, mais j'ajouterais qu'en plus, on est super drôle, donc il faut venir nous écouter, quoi.
Autopromo.
C'est ça. Alors, je ne sais pas si Raya aurait eu sa place dans ce premier épisode sur la parentalité, mais quand même, il y a quand même... une relation père-fille quand même importante au cœur de ce film. Donc,
ouais, c'est vrai qu'il y aurait eu matière. Ouais. J'y ai pensé justement en le regardant. Je me suis dit, bah, quand Émilie en a parlé dans ses programmes vus récemment, je me suis dit que ça tombait bien pour justement l'épisode de la parentalité.
C'était ma petite transition pour revenir au sujet du jour, totalement improvisé. Donc évidemment, aujourd'hui, c'est donc un popcorn review hein, sur le film qu'on a vu tout récemment. Donc on va faire comme d'habitude une partie sans spoiler, on va vous présenter le film et puis notre avis général. Et puis ensuite, on va rentrer dans plein de détails, dans une partie spoiler. Donc, vous pouvez totalement écouter cette première partie pour vous faire une idée si vous avez envie d'aller le voir ou pas. Commencer par dire que c'est le 59e classique d'animation des studios Disney. Il est réalisé par Don Hall, qui était notamment aussi réalisateur de Moana. Il a fait pas mal d'autres, mais c'est un peu un des figures importantes de l'animation des studios Disney.
On sent l'affiliation avec Moana complètement.
Ouais, ne serait-ce que dans le fait qu'ils ont aussi impliqué un groupe, on en reparlera, mais pour être un groupe de référence culturelle pour vraiment... Et je me souviens que dans les making-of de Moana, ils en parlaient aussi. Mais cette fois-ci, donc, il travaille avec Carlos López Estrado, qui est aussi donc, réalisateur. Et lui, c'est un petit nouveau chez Disney, puisqu'il vient de genres très différents. Et il a notamment, j'ai vu qu'il avait réalisé, c'est lui qui a réalisé Blindspotting avec David Diggs. Donc rien à voir avec Disney.
Oui. Mais on valide David Diggs.
Oui, totalement. Totalement. Et en plus, je me suis revue Soul hier. Je me suis dit, ah tiens, David Diggs avait déjà un petit lien avec Disney.
C'est vrai. Puis il va en avoir un plus gros bientôt avec La Petite Sirène.
Oui, totalement. Mais je me demande d'ailleurs si on n'avait pas vu le nom Carlos López Estrado lié à d'autres projets de live, mais je ne sais plus. Peut-être pas.
Ah,
peut-être
ça me dit quelque chose. Je crois Robin des Bois.
Oui, c'est aussi ce...
Le remake Lave Robin des Bois. Il me semble... Si, c'est lui.
Voilà.
Je viens de vérifier.
Très bien. Donc jeune, c'est un relativement jeune réalisateur mexicain, donc c'est chouette de voir enfin sa première production Disney. Et en co-réalisateur, on peut mentionner aussi Paul Briggs et John Ripa, qui c'est les premières fois qu'ils sont crédités à la réalisation de longs métrages, mais c'est des vieux de la vieille de chez Disney au niveau de l'animation, donc on est sur une équipe bien, bien mixte et... Enfin, mixte pas au niveau des genres, mais au niveau de l'ancienneté.
Toujours pas, mais...
Donc, ce film, ça aurait dû être le Disney de Noël, entre guillemets, de 2020, puisqu'il aurait dû sortir en novembre 2020. Voilà, Covid, tout ça, ça a été repoussé.
Je suis dégoûtée.
Grave. Et en fait, ce film, il est sorti d'abord en mars, en simultané dans quelques salles aux US et en accès premium sur Disney+, dans certains pays, enfin les pays qui ont mis en place ce système d'accès premium. Donc par exemple, nos voisins belges avaient accès en premium dès le 5 mars. Donc nous, il a fallu attendre le 4 juin, la date à laquelle le film est disponible sans supplément pour tous les abonnés Disney+, y compris dans les pays où c'était accessible jusque-là en premium, où il fallait payer en plus.
Ça aurait été tellement un beau film de Noël.
Mais oui, et voilà, et je suis quand même déçue parce que là, ça sort au moment où les salles sont ouvertes, donc je suis quand même déçue qu'ils aient pas réussi à s'arranger pour faire des séances quand même.
Alors j'ai cru lire qu'en Belgique, chez toi Clem, parce que du coup, si vous ne savez pas, Clem est belge, ils sortaient en salle.
Ouais, je pense, mais en tout cas, c'est ce que Tony a dit. Ici, dans mon cinéma, j'ai pas l'impression qu'il y ait, je peux aller vérifier. Parce que justement...
Je crois que c'est dans certaines chaînes de cinéma, parce que c'était le cas aussi aux États-Unis, c'était pas dans toutes les chaînes de cinéma, donc je pense que c'est des chaînes qui sont affiliées à Disney et qui du coup, on n'a pas ça nous en France, on n'a pas de chaîne de cinéma associée à Disney, donc il me semble
c'est
que
dommage.
C'est
dommage, je vais regarder.
Mais bon, on peut peut-être qu'un jour, hein, ils feront des ressorties, c'est déjà arrivé hein, qu'ils ressortent des films au cinéma, donc...
Mais je l'espère pour vous. Ah non, bah si, apparemment, il sort 9 du 6 2021, donc il sort aujourd'hui. En tout cas, dans mon cinéma.
D'accord.
Et Cruella aussi, du coup, parce que je vais le voir demain.
Ah ça, t'as de la chance. Nous, on va devoir attendre encore.
Quelques semaines, ouais, il sort à la fin du mois.
En tout cas, moi, ça restera une de mes plus grosses déceptions de ne pas l'avoir vu en salle. On expliquera un peu pourquoi tout à l'heure, encore plus que pour Saul. Mais bon,
ouais,
c'est pas grave. On va se réconforter avec la suite.
Tout à fait. Bon, pour quand même dire de quoi ça parle, sans rentrer, en restant le plus général possible et sans spoiler. Donc, on est dans un pays fantastique qui rappelle le sud-est asiatique, où une catastrophe en fait a fait disparaître les dragons qui vivaient en harmonie avec les hommes. Et cette catastrophe en fait a divisé donc ce pays qui s'appelait Kumandra en cinq tribus rivales. Et donc Raya, l'héroïne, est la fille du gardien de la pierre du dragon, donc d'une de ces tribus. Et cette pierre en fait est un peu le symbole du pouvoir de ces derniers qui a permis de sauver l'humanité des drones, qui sont en fait des esprits maléfiques qui changent humains et dragons en pierre. Et il se passe une nouvelle catastrophe qui ramène ces terribles drones et qui pousse Raya à partir dans une quête épique pour retrouver le dernier dragon survivant, Sisu, qui est donc un peu le dernier espoir en lui faisant récupérer ses pouvoirs de délivrer le pays une nouvelle fois.
Entre En Avant et Raya, en ce moment, Disney, ils sont à fond fantasy. Hein.
Ouais, 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 ça me plaît bien.
Ah bon, c'est bizarre ça.
Ouais, ouais, non, j'aime bien que ça change. Enfin, c'est un autre type de fantasy que les références aux contes de fées, quoi. C'est un côté plus épique que forcément, moi, j'apprécie bien. Mais...
Moi, j'apprécie, mais j'avoue que j'aurais bien aimé aussi qu'ils refassent des contes de fées un peu à la Cendrillon, Blanche-Neige, mais un peu plus moderne, un peu plus actualisé. Mais que, voilà, ils repartent aussi un peu sur ces classiques qu'ils faisaient au début et en version modernisée, actuelle. Ça me plairait bien quand même.
Pour l'instant, c'est plutôt les lives, du coup, qui sont sur cette veine-là.
Ouais. Ouais. Ah non, mais avec des personnages nouveaux.
Ah ouais, non, c'est clair qu'avec des histoires inédites, ça serait quand même pas mal. Et toi, Clem, du coup, t'es plutôt amatrice de fantasy ou...
Ben, en fait, moi, j'aime de tout. C'est vrai que je suis pas, je me cantonne pas à certains styles chez Disney. Je prends tout ce qui arrive, quoi. Dès qu'il y a de la nouveauté, moi, je suis contente. Je vois qu'il y a de l'évolution au niveau des studios, donc ça me plaît. Mais par contre, j'ai pas vu En Avant. Je l'ai pas encore vu. Je vais le regarder, je pense. Comme ça me donnera un contenu à mettre dans nos programmes regardés récemment pour I+.
Oui, c'est vrai que vous avez pas la chronologie des médias et du coup, vous avez déjà En Avant sur.
Ben ouais, il faudrait que je vérifie, mais je pense que ouais. Ouais, on a cette chance là.
Alors du coup, toujours dans la partie sans spoiler, moi je voulais mentionner un petit peu le casting et avoir votre avis. Déjà, vous l'avez entendu écouter en VO ou en VF, vous ?
En VF.
Ouais, aussi.
Ah ! Il n'y a que moi en VO, d'accord. Ok, bah écoutez, je commence. Je vous donne mon avis sur la VO. Non, en fait, je l'ai écouté en VO. Pour les dessins animés, ça ne me dérange pas du tout d'écouter de la VF. Mais là, je l'ai écouté en VO pour deux raisons. La première, c'est pour Awkwafina. C'est vrai que je l'ai beaucoup... Donc, c'est la voix de Sisu. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, cette actrice rappeuse. Et j'adore sa voix. En fait, je trouve qu'elle a une voix incroyable. Et elle joue dans, je ne sais pas si vous avez vu, Ocean 8 ou encore Crazy Rich Asians, entre autres.
Ouais.
Elle va jouer dans Shang-Chi aussi, qui va sortir en 2021. Et, accrochez-vous, elle va faire la voix de... Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, de, dans La Petite Sirène, le remake live, de Eureka.
Ah ouais ? Trop bien !
Attends, c'est qui Eureka ? Je ne me souviens pas.
C'est l'oiseau.
C'est le goéland.
Ah, d'accord. Ok.
C'est trop marrant.
Ouais,
quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas, ok. Entre David Diggs qui fait Sébastien et Awkwafina qui fait Eureka.
Ah, mais attends, ça veut dire, j'espère qu'ils auront une chanson ensemble écrite par Lin-Manuel Miranda, parce que là, ça serait vraiment...
Ça serait le combo.
C'est trop bien.
Donc voilà. Voilà, du coup, j'ai regardé en VO, non seulement pour Awkwafina, mais aussi parce que en VO, on a un casting qui est 100% asiatique pour le doublage. Et du coup, ça, je dis un grand oui. Alors qu'en VF, c'est pas le cas. Et moi, je comprends pas pourquoi, en fait. On a que des personnages asiatiques. Tout se passe dans l'Asie du Sud-Est. Alors, même si c'est un pays qui n'existe pas, ça me fait bizarre que pour une fois, ils aient pas profité et trouvé des casteurs. Parce que je suis sûre qu'il y a des casteurs excellents qui sont d'origine asiatique. En France aussi, quoi.
Bah, en fait, ça manque pour Raya et Sisu, quoi. Après, pour d'autres personnages, il y a quand même des voix de français.
Oui, Namari, Chef Benja, oui, tout à fait. Ouais.
Et qui, pour le coup, sont pour le coup plus Asie du Sud-Est, alors que je crois que j'ai vu des critiques, entre guillemets, voilà, je pense pas que ce soit le truc le plus gravissime du monde, mais qui disait que quand même, certes, c'est un casting asiatique en VO, anglaise, mais quand même, c'est principalement, même quasiment exclusivement, des personnes pas issues du sud-est asiatique, mais plutôt d'autres parties de l'Asie.
Non, pas exclusivement.
Non, pas exclusivement.
Rien que Raya, elle est vietnamienne.
Ah oui, bah voilà. Mais du coup, voilà, il y avait quand même ces petites remarques où je dis quand même.
Oui, effectivement, mais oui.
Un peu pointilleux. Bah, mais voilà, en France, pour le coup, voilà, effectivement, c'est pas 100% asiatique, mais y a quand même quelques voix. Mais...
Bah, on a du chemin à faire, mais bon. Et du coup, en VO, à part Awkwafina, on retrouve du coup Kelly Marie Tran, donc, qui on a dit qui était d'origine vietnamienne, qui joue dans Star Wars et qui là incarne Raya. On a Gemma Chan qui interprète Namari et qu'on retrouve dans Crazy Rich Asians. Alors, j'ai lu dans Les Animaux Fantastiques, mais je l'ai vu il y a tellement longtemps que je ne vois pas du tout qui c'est. Donc, ça, je demande à la pro.
Tout petit rôle. Ah, okay. Franchement, c'est anecdotique.
Et on va la retrouver dans Les Éternels, du coup, qui va arriver bientôt. Et puis, en Chef Benja, on a Daniel Dakim, qui est connu surtout... Moi, je l'ai connu pour Hawaii Five... la série, quoi. Mais je sais qu'il a fait pas mal d'autres choses, dont Lost.
Non, bah, moi, je l'ai vu en VF, du coup, parce que j'ai regardé avec ma grand-mère, donc elle insistait pour que ça soit en VF. Et sinon, je l'aurais vu en VO. Bon, la VF, il n'y a rien qui m'a choquée. Enfin, les voix sont chouettes, hein, ça fonctionne bien. Alors, par contre, il y a juste un truc qui m'a un petit peu sorti à un moment, c'est que c'est un peu un comble d'ailleurs, c'est qu'en fait, il n'y a qu'une seule voix qui a un accent en français, qui a un accent asiatique, et c'est la chef Virana, donc la mère de Namari, qui est en fait interprétée par la chanteuse Angoon, qui est d'origine du coup indonésienne. Et donc, c'est un peu un comble parce que autant... on disait que justement, il y avait un manque de cohérence dans la VF de ne pas avoir pris d'actrice, notamment pour les rôles de Raya et Sisu, d'actrice d'origine du sud-est asiatique. C'est le cas pour le personnage de Virana, mais c'est la seule qui a vraiment un accent qui est audible. Et donc, ça fait bizarre, en fait, de les voir, surtout quand on les voit, on voit Namari et sa mère, qui du coup, ont vraiment... Enfin, ça fait pas sens que Namari n'ait pas d'accent alors que sa mère a un accent.
Ouais, c'est vrai que
voilà, ça m'a juste marqué ce décalage, mais sinon franchement Géraldine Nakache en Sisu est très très chouette, et du coup j'ai écouté la voix originale de Awkwafina, elles ont vraiment le même timbre de voix, donc ça franchement ça reste logique en fait dans les deux. Et Raya, j'ai trouvé très chouette, donc voilà, et Emily Rowe, donc...
Voilà. Mais je trouve que Sisu, quand elle est, du coup, humaine, je vais un tout petit peu spoiler, mais voilà, je trouve qu'elle ressemble super fort à Awkwafina, enfin, je veux dire, la personne, quoi. Le dessin ressemble très fort au visage de Awkwafina. Ça m'a vraiment marqué parce que quand j'ai regardé les animés, je me disais, mais elle me fait vraiment penser à celle qui joue dans Ocean 8, etc. Et puis je suis allée voir en fait que c'était elle, donc je me suis dit, oui, je trouve que c'est pas mal fait de retrouver comme ça la personnalité des doubleurs, du coup.
Ouais, c'est souvent
totalement
le cas.
Bah, du coup, j'avais vu une vidéo, je sais plus, ça traînait sur Facebook, je saurais plus dire quel média, mais d'une interview. Alors, pour dire à quel point celle qui interprète Raya en français n'est pas très connue, on avait uniquement dans l'interview Géraldine Nakache, Angoon et Frédéric Chau.
qui et fait le chef Benja, du coup, Frédéric Chau.
Voilà, c'est ça, Frédéric Chau. Bah, que vous connaissez sûrement dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, même si ce n'est pas un film exceptionnel. Au moins, tout le monde voit à peu près. Et du coup, c'était avec une interview avec ces trois-là. Et effectivement, même eux le disaient, Awkwafina, elle ressemble à Sisu, quoi, dans le film, dans la gestuelle, dans la manière de parler, physiquement. C'est incroyable. Je ne sais pas s'ils l'ont fait en pensant à elle au départ ou...
Si, je pense. Mais de toute façon, on a souvent vu, là, dans les, en tout cas dans les making of Disney, ils enregistrent les voix avant de faire l'animation. Donc du coup, l'animation est quand même calquée sur... Évidemment, ce n'est pas le cas pour les voix de doublage dans les autres, dans les autres langues. Donc forcément, là, les acteurs qui prêtent leur voix ont quand même une influence sur le personnage, j'ai l'impression. Mais...
Du coup, on va peut-être passer à notre avis général, mais alors toujours sans spoiler. Oui. Donc, Clem, est-ce que tu veux te lancer ? L'exercice n'est pas facile.
Hein. Allez, d'accord. Je vais essayer de ne pas spoiler, même si j'ai un petit peu spoilé il y a quelques instants.
Ça va, ça va.
C'était léger. Donc, pour moi, ça a été vraiment une claque visuelle parce que c'est super, super beau. C'est super soigné. Les détails sont vraiment, même les plus infimes, ils sont super sympas. La texture des cheveux, c'est quelque chose d'incroyable. J'étais obsédée par la chevelure d'Oraya pendant tout le long du dessin animé. Puis les vêtements, on voyait vraiment la texture du tissu, les poils pour les animaux, etc. Et puis les décors, ils sont vraiment sensationnels. Et je trouve que c'est un Disney qui sort quand même vraiment des classiques habituels. Et ça nous emmène aller dans une aventure dont on n'a pas vraiment l'habitude. C'est haletant, c'est prenant comme un jeu vidéo ou comme un film fantasy, comme le disait Marjo. Donc c'est vrai que ça change des Disney habituels, je trouve.
Non, je suis totalement d'accord. Moi, j'ai passé un très bon moment. Et finalement, j'ai eu exactement ce que j'attendais de ce film quand il avait commencé à être annoncé et qu'on savait qu'il y aurait cette ambiance et puis ce côté très aventure. Et du coup aussi ce côté très fantasy, moi qui me hypais évidemment, comme je l'ai déjà dit. Et donc j'espérais qu'ils aillent à fond de ce côté-là et j'ai pas été déçue. Et l'univers, j'ai trouvé hyper foisonnant, peut-être même parfois un peu trop riche pour un film de moins de 2 heures, mais on va revenir là-dessus dans la partie spoiler, mais notamment pour les personnages secondaires, je les ai trouvés intéressants mais un peu trop superficiels. Pour l'univers, il est tellement riche qu'il n'y a pas le temps de tout explorer, donc ça reste parfois, pareil, un peu trop en surface pour que je me laisse vraiment complètement imprégner, immerger. Et c'est ma petite réserve, mais c'est la réserve, une bonne critique à avoir. Hein. Ça veut dire que le film, il donne beaucoup de choses. Et le rythme, quoi, ça s'enchaîne, ça va vraiment... Il n'y a pas de temps mort, quoi. Donc ça, c'est vraiment agréable. Du coup, on passe vraiment un bon moment devant. Et l'action, quoi, on est vraiment servi. Les combats sont très, très chouettes. Gros point fort aussi pour moi. Une des bandes-annonces qu'on a eues me faisait un peu peur pour le personnage du dragon, Sisu. Au final, je l'ai vraiment bien apprécié. Parce que j'avais peur, du coup, à côté de ce côté aventure, il y ait un humour qui soit un peu trop lourd, un peu trop présent. Et puis, finalement, je l'ai trouvé bien dosé, en tout cas à mon goût, pour un Disney. Hein, c'était le bon équilibre pour moi. Après, c'est pas un film qui joue autant sur la corde sensible et émouvante que beaucoup d'autres Disney. Donc, j'ai pas eu la larme à l'œil que j'ai quand même très souvent devant n'importe quoi d'ailleurs, et notamment des Disney et des Pixar. Peut-être que ça aurait été le cas au cinéma si j'avais été plus à fond dedans, mais je suis pas sûre. Mais franchement, il y a eu tellement de moments quand même waouh visuellement que j'ai vraiment hâte de me le revoir en VO du coup, là, cette fois-ci. J'ai plus eu des frissons de genre « Ah, c'est super beau !» plutôt que « Ah, oh, je suis super émue !» Mais j'aime bien les deux, j'aime bien voir les deux dans un film, donc c'était quand même une bonne expérience.
Ouais, moi non plus, j'ai pas eu la larme à l'œil. J'ai eu beaucoup de frissons comme toi, moi c'est surtout pour la musique, mais on en reparlera tout à l'heure de la musique, mais ça m'a vraiment mis la chair de poule à des passages. Après, je pense pas que forcément qu'au ciné j'aurais eu la larme à l'œil non plus, parce que je trouve, même s'il y a des passages qui sont émouvants, surtout la relation paternelle, du coup on en a vaguement parlé, au final ça a rien, hein. C'est pas aussi bouleversant que par exemple dans En Avant. Donc on va pas spoiler vu que Clem l'a pas vu. Mais dans En Avant, là, tu peux pleurer. Là, il y a vraiment des moments qui sont bouleversants. Là, je pense pas que ce soit la carte à jouer dessus. On comprend très vite que ça va être un peu, entre guillemets, un happy ending, quoi. Mais voilà, ça me dérange pas parce que, comme vous dites, moi, j'ai adoré aussi. L'animation est sublime, les passages sont magnifiques. J'ai aussi tiqué sur les cheveux. Et moi, il y a un truc qui me tue à chaque fois. Et ça me fait penser aux Indestructibles 2, c'est les cheveux mouillés. Parce que pour réussir les cheveux mouillés, quand tu vois par exemple la petite sirène et dans les Indestructibles ou là dans Raya, tu vois la différence et c'est incroyable, quoi. Enfin,
ouais, c'est clair.
C'est fou. Et voilà, sinon je pense que j'ai passé un très bon moment, je me suis pas du tout ennuyée, j'ai beaucoup rigolé, vraiment. Donc finalement il y a plein de petits passages très drôles. Le seul point négatif que moi j'aurais, c'est le scénario, que j'ai trouvé un peu trop simple et même très prévisible. Genre j'anticipais deux ou trois scènes à l'avance sans le vouloir spécialement, quoi. J'ai trouvé que c'était très linéaire. Alors j'ai entendu, je crois que c'était sur le Discord de Main Street Actu, que des gens parlaient un peu comme un jeu vidéo. Et ouais, c'était un peu ça. Voilà, on fait l'étape 1, après on passe à l'étape 2, après on passe à l'étape 3. Et du coup, on devinait facilement la suite. Et ça m'a un tout petit peu dérangée, parce que si je compare avec un des derniers Disney qui est La Reine des Neiges 2, dans La Reine des Neiges 2, j'avais vraiment un côté un peu double lecture enfant-adulte, avec des passages voilà, que tu interprétais d'une certaine manière ou que tu comprenais d'une certaine manière, ou des subtilités, des sous-entendus. Je trouvais que pour Raya, il n'y avait pas ce côté-là. On parle de sujets matures, mais pas assez en profondeur pour moi.
Je suis assez d'accord. Après, je vais attendre de le revoir quand même pour voir si je vois autre chose. Mais effectivement, à la première premier visionnage, c'est très linéaire, en effet. Mais je pense qu'on va reparler dans la partie spoiler, parce que j'étais hyper intéressée par les making-of qui donnent du coup d'autres... on voit un peu les autres directions qu'ils auraient pu prendre, et ça m'a un peu interpellée, ça m'a refait penser à... ça m'a fait penser autrement le film, donc... Mais pour ça, on va attendre de rentrer dans les spoilers. Donc je pense qu'on peut le recommander quand même chaudement. Hein.
Ah oui, à tout le monde, vraiment, regardez-le.
Et ouais, je serais quand même curieuse d'avoir des retours, notamment de public jeune, d'enfants, tout ça, pour voir... Parce que je pense que ça peut être un film auquel ils accrochent vraiment beaucoup. Donc je serais curieuse d'avoir des retours de public jeune. Donc si vous avez des enfants, ouais, dites-nous ce qu'ils en ont pensé. On passe au spoiler ?
Oui ! On n'attend que ça.
Pour rentrer un peu plus en détail sur l'histoire et les personnages déjà, surtout. Donc je pense qu'il faut qu'on commence par Raya quand même, pour parler plus en détail de cette super-héroïne du coup. Donc moi je l'ai vraiment adorée, Raya. J'ai trouvé qu'elle était vraiment assez inédite en fait par rapport à... Pourtant, voilà, ces dernières années, Disney nous a fait de plus en plus de personnages vraiment... personnages féminins assez forts, et puis de plus en plus aussi des personnages féminins où les romances n'étaient pas du tout au centre de leurs préoccupations. Bon, là, Raya, c'est à nouveau le cas. Pas de romance pour Raya, et même quasiment pas de personnage masculin à part son père. donc voilà. Et ce que j'ai... trouver qu'ils sont allés encore plus loin par rapport à des personnages comme Mérida ou Elsa, c'est que c'est pas du tout une héroïne naïve qui doit tout apprendre pendant le film. En fait, quand on la rencontre, c'est déjà une guerrière, elle s'est déjà donné une mission, elle sait ce qu'elle veut, elle a pas besoin qu'on la guide en fait au final. Et ça, j'ai trouvé ça assez inédit en fait, d'avoir vraiment une jeune héroïne qui est aussi indépendante, aussi autonome, et qui compte sur personne, et quitte à ce qu'elle ait plus le parcours de personnages qu'on a d'habitude, plutôt des personnages masculins qui doivent apprendre à faire confiance. D'habitude, c'est l'inverse, quoi. On a les héroïnes trop naïves qui doivent être guidées par quelqu'un de plus expérimenté, et là, c'est pas du tout le cas. Donc ça, j'ai vraiment aimé qu'elle ait pas besoin de se libérer de quoi que ce soit, en fait. Donc c'est chouette. Donc, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais...
Ouais, elle est badass.
Ouais...
Ouais, c'est vrai que c'est assez inédit, on a rarement ça. Mm. Moi, je l'ai bien aimé aussi. C'est vrai que... en fait, je pense que les héroïnes un peu naïves, je m'y reconnais... Enfin, je m'identifie plus parce que j'ai vraiment ce côté très naïf. Et du coup, je l'ai beaucoup aimée, j'ai apprécié de la regarder. Je me suis dit, ah, elle est trop bien, elle est stylée. Je me suis dit, c'est super que les petites filles puissent s'identifier, avoir un modèle comme ça. Mais c'est vrai que moi, je me suis moins identifiée personnellement que dans d'autres princesses. Mais après, je pense que c'est aussi côté sentimental, quoi. Les princesses de 90, c'est Madeleine de Proust, entre guillemets. Ouais. Mais en tout cas, non, je l'ai trouvée top et je trouve ça vraiment génial qu'on commence à avoir vraiment une diversité.
C'est ça.
Alors, ouais. C'est pas une princesse, mais qu'on commence à avoir une diversité autour des héroïnes Disney.
Je ne dis rien, mais j'hoche de la tête.
On va mettre un petit son de hochement de
tête. C'est ça. C'est pas facile, ça. Du coup, on passe à Sissou, qui est comme la deuxième héroïne, entre guillemets. Oui, alors, j'avais mis dans le doc héritière de Mushu, parce que, voilà, dans le genre dragon un peu drôle, bah, le dernier exemple qu'on avait, c'était Mushu, donc...
Est-ce que j'ai besoin de le redire que je déteste Mushu ou c'est bon, je l'ai dit dans suffisamment d'épisodes.
Justement, je voulais te demander si tu avais préféré Sissou à Mushu.
Bah tellement, rien à voir. Non, j'ai beaucoup aimé Sissou, je l'ai trouvé très très drôle et je pense que le doublage fait pour beaucoup, mais je l'ai trouvé vraiment, ouais. Elle m'a fait rire, quoi. Alors que Mushu me fait pas vraiment rire, désolée.
Bah d'ailleurs, tout à l'heure, avant d'enregistrer à ma grand-mère, je me dis, bon, alors, je vais enregistrer, mamie, et tu veux donner ton avis pour que je transmette et tout. Et elle dit, oh, je sais pas. Elle fait, ah, oh, si, quand même, j'ai adoré Sissou, j'ai adoré la dragonne, elle est vraiment géniale. Autant quand elle est sous sa forme dragonne, autant sous sa forme humaine que sous sa forme dragonne, j'adore ce personnage. Donc voilà, ma mamie a beaucoup aimé Sissou. Donc, mais comme je disais, ouais, j'avais un peu un a priori négatif parce que bah, je sais pas, quand j'avais entendu Raya et le dernier dragon, forcément j'entendais un dragon un peu épique, quoi. Donc quand j'avais vu que c'était pas exactement le cas dans la bande-annonce, j'étais genre oh non, ça va être juste un comic relief, ça va être un peu. Et au final, non, pas du tout, elle est quand même beaucoup plus complète que ce que je craignais. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai juste du mal à comprendre en fait pourquoi elle a ce complexe d'infériorité par rapport à ses frères et sœurs. Et du coup, ça vient d'un de mes petites critiques vis-à-vis du film, c'est que je trouve que les autres dragons, enfin toute cette famille, tout ça de dragons, on les voit pas, quoi. On les voit ses frères et sœurs, ils sont muets, on les voit que dans ses souvenirs ou à la fin sans qu'ils disent un mot. Et ça m'a un peu manqué qu'on n'ait pas du tout un peu plus de matière pour qu'on comprenne pourquoi Sissou est aussi ouais, ce problème de confiance en elle, quoi. Donc, mais je sais que vous avez des avis là-dessus.
Bah oui, moi je pense que ce complexe d'infériorité, ça vient du fait qu'elle est un peu enfin, elle pense, j'ai l'impression en tout cas au début du film, qu'elle est la seule à ne pas avoir de pouvoir particulier. Parce que, enfin, en tout cas, elle le nomme pas, elle lui dit qu'elle sait nager, qu'elle est une super bonne nageuse, mais c'est normal, c'est logique, puisqu'elle a un dragon d'eau, qu'elle soit une bonne nageuse. Et elle arrive à énumérer les pouvoirs de ses frères et sœurs tout au long du dessin animé quand elle récupère les pierres. Et puis après, nous, on a l'impression qu'on ne sait pas c'est quoi son don particulier. Mais justement, moi, je pense, enfin, c'est l'idée que je m'en suis fait, que son don, c'est peut-être qu'elle a la capacité de pouvoir réunir tous ses frères et sœurs et faire la synthèse des dons de chacun, en fait. Puisqu'elle arrive à prendre chacun des dons au fur et à mesure qu'elle récupère les pierres, est-ce qu'elle n'est pas capable aussi de faire la synthèse de tout ça, quoi. Et donc, ce serait ça, son grand pouvoir.
J'aime bien l'idée.
Ouais, je me suis demandé aussi, effectivement, j'aime bien l'idée, si c'était pas, ouais, effectivement, en fait, c'est ce qui la rend un peu humaine, entre guillemets. Mais intérieurement et pas humaine du coup physiquement comme le pouvoir de sa sœur. Mais en fait, c'est pas tant... Je disais tout à l'heure qu'il y avait plein de choses, il n'y avait pas assez de subtilité de sous-entendu. Là, pour moi, c'est trop subtil et pas vraiment... Après, moi, pendant tout le film, j'étais persuadée que c'était elle qui sauverait le monde un peu en mode son pouvoir, un pouvoir lié avec l'eau, du coup, comme elle sait super bien nager, qui se dévoilerait d'un coup et qui sauverait tout. Bon, au final, ça n'a pas du tout été le cas. Et ouais, je reste un peu sur ma fin dessus. Mais je suis sûre qu'on va avoir un court-métrage dessus.
Ouais, bah, j'aimerais bien. Mais j'aime beaucoup vos idées, là, de... qu'en fait, son pouvoir particulier, il est plus... Enfin, il est un peu différent et qu'il est peut-être plus dans son attitude, le fait que là, pour le coup, c'est elle la naïve de l'histoire, en fait, mais dans le bon sens du terme. Et j'aime bien. Mais d'ailleurs, je vais revenir sur cette idée, parce que quand j'ai vu vos avis et que je voulais parler d'une scène coupée, je vais en parler un peu plus loin, qui a apporté une autre dimension au film. En fait, c'est totalement lié à ce que tu disais, Clem, sur son pouvoir d'inspirer, de s'inspirer des autres et du coup d'inspirer, de faire la synthèse. Mais j'en reparlerai tout à l'heure, mais ça me donne... C'est une dimension qu'effectivement, je pense qu'ils avaient en tête et qui a un peu disparu ouais. au fil de la production quand ils ont voulu recentrer sur certaines choses. Et du coup, bah, c'est pour le chercher, il faut creuser un peu plus, je crois.
Oui, parce qu'au final, c'est un peu elle, le point commun de tous les personnages au fur et à mesure de l'histoire. C'est elle qui les réunit. Ils se réunissent tous autour d'elle, autour d'une idée commune qui est bah, voilà, de l'utiliser aussi pour sauver le monde, enfin le royaume. Donc c'est pour ça que j'avais l'impression qu'elle était vraiment là pour fédérer au final.
Qu'on passe au duo ennemi entre guillemets de Raya et Namari parce que j'ai des choses à dire sur elles deux. clairement pour moi bon j'avais déjà eu entendu des échos avant qui disaient oh là là Raya, Namari on les chippe à mort et effectivement alors, j'avais pas forcément ça en tête en regardant mais je me suis dit non là c'est quand même je le voyais vraiment gros quoi pour moi c'est vraiment un cas d'école en tout cas je l'ai vécu comme du queerbaiting assez évident donc pour ceux qui connaissent pas le terme c'est en gros laisser des sous-entendus sur une relation queer donc LGBT sans jamais le confirmer. Et donc pour attirer bah justement les communautés LGBT qui pourraient reconnaître des codes de ce type de relation et qui mais qui sans jamais l'assumer totalement. Et c'est vrai que pour moi j'ai jamais vu autant d'insinuations en tout cas aussi claires entre deux personnages féminins principaux. Je comprends que voilà ils sont pas allés jusqu'au bout, mais j'espère qu'un jour ils oseront et que c'est juste une étape, mais voilà, je les ship aussi toutes les deux totalement.
Mais moi j'ai pas du tout vu ça, mais alors vraiment absolument pas une seule seconde.
Ah et ouais, même ils sont pas qu'elles flirtent à mort les deux là.
Mais tellement pas. Mais alors mais vraiment pas du tout. Alors je dis pas non hein, sur effectivement une histoire d'amour entre deux femmes ou deux hommes dans un Disney, mais j'en rêverais, ce serait génial vraiment. Je dis oui à 1000%. Mais alors pour moi dans Raya au contraire, je me suis dit bon c'est cool, il y a même pas de petite histoire d'amour. Des fois ils te la pseudo vendent, enfin ils nous la pseudo mettent histoire de faire rêver les fans comme typiquement dans la trilogie, la troisième trilogie de Star Wars entre Rey et Ben. Tu te demandes si elle y est, si elle y est pas, jusqu'à ce qu'il, entre guillemets, concrétise, enfin, plus ou moins, même si c'est pas vraiment ça, enfin, ça reste compliqué, mais c'est, voilà, histoire qu'il y ait des fanarts, que les gens rêvent, etc. Et là, je me suis dit, c'est bien, ils ont pas du tout joué là-dessus, et du coup, quand j'ai lu ta préparation, j'étais là, quoi ? Je vais vraiment passer à côté, ou ? Mais moi, tellement pas.
Ah ouais. Après, voilà, c'est le propre aussi du fait que c'est pas confirmé, c'est que ça laisse ouvert à l'interprétation. Mais du coup, pareil, là, j'en ai parlé avec ma cousine avec qui j'ai regardé aussi l'épisode. Elle a dit ouais, non, mais ça se voit à mort, quoi. Donc, j'étais genre bon, ok, j'y vais.
Ah ouais, alors je suis peut-être trop naïve, mais vraiment, j'ai.
Et c'est vraiment un petit détail à la fois ce réflexe qu'a Anna-Marie de toucher ses cheveux quand elle est en face de Raya. Il y a ça, déjà. Et il y a tout le fait qu'elles n'arrêtent pas de s'en lancer des piques. Mais tu vois, elles sont censées être ennemies, mais elles se lancent des piques vraiment en mode flirt, quoi. Donc, c'est vraiment ça, moi, qui m'a fait... où je me suis dit, ah, ok, et c'est quand même assez clair, mais bon. Mais tu vois, je m'attendais à ce qu'au moins il y ait une embrassade à la fin, tu vois, ou qu'elles se prennent dans les bras, ou qu'elles se tiennent la main à nouveau, mais comme quand elles étaient petites, mais non. Donc, elles restent à une distance... prude, mais voilà.
Mais moi, j'ai trouvé aussi qu'il y avait une certaine tension entre elles. Et c'est vrai que les mouvements de cheveux, les petites blagues un petit peu, voilà, qui pourraient s'apparenter à de la drague, finalement, je trouvais qu'il y avait une tension qui était autre que simplement une tension de deux et demi, quoi.
Ouais.
Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Faut que je le revoie, du coup, avec votre avis pour... Peut-être que je suis trop... Quand on parlait de naïveté tout à l'heure, peut-être effectivement, moi, on me vend deux ennemis, je vois deux ennemis. Je vais pas plus loin.
Mais bon, j'ai quand même vachement aimé la dynamique entre les deux personnages. Et par contre, justement, en tant que deux ennemis, là, je cite à nouveau la réaction de ma cousine qui m'a dit direct à la fin du film, ouais, par contre, elle lui dit... qu'elle a trahi sa confiance, qu'elles étaient meilleures amies alors qu'elles se connaissaient depuis 3 minutes. C'est un peu abusé quand même.
Ah, mais je suis tellement d'accord avec ta cousine. Moi, ça m'a un peu gâché leur relation.
Si c'est un coup de foudre, tu le vois différemment. Mais,
Coup, oui, tu vois, c'est quand tu m'as... Exactement, quand tu m'as dit qu'elle flirtait, etc. Bah là, totalement, parce que... Après, c'est peut-être juste perso, mais c'est vrai que moi, quand j'ai un coup de foudre ou une attirance pour quelqu'un, je vais être plus à fleur de peau et je vais plus me sentir trahie si effectivement il se passe un truc que quelqu'un avec qui je deviens amie 3 minutes avant, quoi. Ou alors un coup de foudre amical.
Ouais, un coup de foudre amical.
Oui. Mais du coup, il y avait cette idée du collier qu'elle garde.
J'ai pas compris. Ça m'a un peu gâché le truc, quand même, j'avoue. Hein. Cette histoire de collier en mode symbole de leur amitié, etc. Je me suis dit, mais c'est un peu abusé, quand même.
Ouais. Bah, du coup, moi, je l'avais vu, bon, à la fois symbole de... Ouais, peut-être qu'il y avait plus que ça, même s'ils se sont parlé 3 minutes, quoi. Mais après, je le voyais peut-être aussi comme un rappel, en fait, à soi-même qu'elle avait donné sa confiance à quelqu'un qui l'a trahi. Et que du coup, c'est un peu son rappel constant de pas accorder sa confiance à n'importe qui. Tu sais, comme...
Ouais, moi, je le voyais comme ça aussi.
Et en même temps, comme c'est le dragon Sissou, quand même, hein, c'est quand même la représentation de Sissou, et que Sissou, c'est un peu son dernier espoir. Il y a le côté un peu ambigu. D'un côté, c'est le rappel de ne pas donner ma confiance à n'importe qui. Et en même temps... Mon dernier espoir, c'est aussi ce que représente ce collier. Donc, ouais, il y a plein de possibilités d'interpréter là, ce collier, mais ouais.
Ouais, j'aime bien cette interprétation-là, en tout cas.
Ouais, finalement, il y a plus de lectures qu'on ne le croit. Hein.
Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Voilà, il me faut un épisode de Pop-Té pour approfondir.
C'est ça qui est génial. C'est génial de discuter. Parce que pareil, vous m'avez déjà... Enfin, sur Sissou, je n'avais pas pensé à tout ça non plus, donc... Ah là là.
Bon, on va pouvoir passer aux autres personnages secondaires, parce qu'il n'y a pas que Sissou, Raya et Namari. Perso, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, je pense que vous aussi, vous allez me dire non sinon, le groupe composé de plein de personnages très hétéroclites. J'ai trouvé que c'est un concept assez classique, hein. Au final, on le retrouve pas mal de fois, on le retrouve également dans Les Gardiens de la Galaxie, où on a ces personnages très différents qui viennent de plein de peuples différents ou plein de planètes différentes et qui s'unissent pour une seule mission, même si au départ, ils ne sont pas amis. Mais moi, ça marche, hein. Ces histoires-là, ça marche à chaque fois. Et puis là, quand je vois ces amitiés qui, à la fin, permettre de rassembler les peuples. Si ça m'a mis un peu les frissons quand ils partent manger tous ensemble, je trouvais ça trop mignon.
Ah ouais, moi j'adore. Hein. J'adore aussi toutes ces histoires de familles d'adoption, puisqu'ils ont tous perdu des gens. Et donc, du coup, de se retrouver, de s'adopter en fait mutuellement, c'est vraiment. Enfin, j'adore moi ce type d'histoire. C'est vrai que c'est classique, mais ça marche toujours très très bien. Et voilà, du coup, c'est une de mes frustrations aussi. C'est que forcément, bah, le film, il est trop court, entre guillemets, pour qu'on ait assez de place donnée à tous ces personnages secondaires. Donc, j'aurais peut-être aimé. Quitte à ce qu'il y en ait un peu moins, alors je sais pas, peut-être si j'en avais à éliminer, désolée, mais j'aurais enlevé la petite fille et les trois singes parce que pour le coup c'est juste du
Bah,
comic relief, mais.
bah oui, mais c'est ça. Les trois petits singes, c'est comme les mignons dans Moi,
C'est
moche et
ça.
méchant. C'est, tu
Ouais.
sais, le truc identique et rigolo qui parle pas. Tout
C'est
comme
ça.
on a le sidekick marrant comme Pascal avec Mouchou, ou comme Hey Hey, ou comme. On retrouve les mêmes codes au final, donc c'est sûr qu'ils seront pas approfondis parce qu'ils sont juste là pour dire
C'est
oh c'est
ça.
trop mignon et
Ouais.
rigoler.
Non, mais c'était juste dans l'idée de gagner du temps, mais effectivement, je comprends leur utilité. Mais c'est vrai que moi, rien que le personnage du petit garçon, je connais, je me souviens pas leur nom, hein, par contre. Et du petit garçon
C'est
ou
pas
de.
Thomas, Tamo,
Boom,
non?
non? C'est pas Boom?
Boom, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Boom,
Ah
Boom,
oui, ah,
Boom.
pourquoi je dis Tamo, moi? Je sais même pas qui c'est Tamo.
Que lui, je l'ai trouvé très touchant. Et puis la
Oui.
grosse brouette aussi, il est trop cool. Il m'a fait, je sais pas pourquoi, il m'a fait penser direct à Réponse au brigand dans
Ah
Réponse.
oui, trop. Ah oui, c'est vrai, totalement.
Ouais.
Non, moi, mon préféré, c'est Tuk Tuk.
Ah bah ouais, mais Tuk Tuk, mais il est génial. Et d'ailleurs, j'avais un peu peur aussi quand on commençait à voir les images de Tuk Tuk. Je me disais, ah, ça va être un peu le sidekick, l'animal sidekick, un peu. Ça va être les gags à répétition. Et en fait, non, pas tant que ça. Et du coup, enfin, juste ce qu'il fallait. Et ouais, Tuk Tuk est trop
Et
mignon.
ce
Il
qui est
est
drôle, c'est qu'il
trop
s'appelle
cool.
Tuk-Tuk et que c'est son moyen de locomotion, quoi, aussi, à Raya.
Ouais!
Et donc c'est marrant.
Les tuk-tuk en Asie, c'est vrai que c'est les petits
Bah
trucs moyens de transport, là.
ouais.
J'en ai pris une fois, j'ai cru que j'allais mourir. Mais non, ouais, tuk-tuk est vraiment marrant et je trouve c'est assez sympa de le voir petit, grand et qu'il est. Ouais, au final, il a une importance quand même. C'est cool. Et
Ouais.
en parlant de Psychic, est-ce que vous avez remarqué qu'on voyait Hey Hey dedans?
Alors, je ne l'ai pas vu, j'ai vu grâce au bonus, un des bonus making-of qui faisait la liste des easter eggs et qui du coup pointait Hey Hey, mais je n'avais pas vu moi mon premier visionnage.
Non, moi non
Moi non
plus.
plus, j'ai vu des photos partout sur Insta après. Mais ça sert à ça de regarder un deuxième visionnage.
Ouais. Et je voulais juste repréciser, puisque tu avais comparé aux Gardiens de la Galaxie, et ouais, moi carrément, mais moi c'est la scène finale du climax où ils sont tous là dans l'espèce de tourmente, là complètement cernés, et où ils sont transformés les uns après les autres en pierre. Et moi ça m'a vraiment, vraiment fait penser à la scène finale du premier Gardien de la Galaxie, où pareil, ils sont dans cette espèce de maelstrom, et du coup ils sont tous ensemble et tout. Ça m'a vraiment rappelé ça, quoi, les Gardiens de la
Ouais,
Galaxie.
c'est vrai. C'est vrai, j'y avais pas pensé, mais ouais, totalement. Bon, je pense que de toute façon, il y a plein d'inspirations. J'avais écouté la vidéo de. Il y a un moment que je l'ai écouté parce que c'était sans spoiler, donc je crois que je l'ai écouté avant de voir le film. De Captain Popcorn, et qui disait. Je crois que c'est lui, hein. Et qui disait qu'il y avait pas mal de références à des films. En fait, qu'il y avait des références cinématographiques, par exemple. Alors, attends, faut que je me souvienne.
Ouais, je crois pas que c'était Captain Popcorn, parce qu'il en a sorti une là cette semaine sur son avis, mais je crois pas qu'il en avait fait d'autres avant, puisqu'il n'était pas sorti en France, et je crois
Ah, je
que.
sais plus. Bon, j'avais lu j'avais vu soit un article, soit une vidéo. Je suis désolée, je m'en souviens plus. Mais où il montrait qu'en fait, il y avait plein d'allusions au cinéma de manière générale,
Ah
avec
ouais.
par exemple avec Forrest Gump, cette histoire de
Ah
bateau avec les crevettes,
oui,
ou
ça il l'a
avec.
mentionné dans sa vidéo, ouais, Forrest
Ah
Gump,
bah tu vois, voilà. Je pense que je l'ai vu plusieurs fois
ouais.
ce truc, mais je trouve ça marrant.
Ouais, carrément. Du coup, on peut passer peut-être à ce fameux univers et ses influences de l'Asie du Sud-Est qui sont hyper riches et tout plein de détails. Et là, dans l'occurrence, vraiment, c'est les bonus making-of qui m'ont confirmé ce que je pouvais sentir, mais sans forcément le reconnaître, puisque je ne maîtrise pas tous ces codes-là, mais voir tous ces détails hyper réfléchis. Et c'est encore une fois, on le redit, ça va être la 10e fois qu'on le dit, mais ça me donne envie de le revoir et pour capter un peu plus toute cette profondeur dans l'univers, quoi. Même, et apprendre plus, de faire les recherches pour savoir plus sur toutes les références. Donc, mais c'est vraiment, c'est foisonnant, quoi, comme univers.
Ouais, totalement. Et j'ai vraiment bien aimé tout ce côté Asie du Sud-Est qui n'est pas forcément toujours représenté au cinéma. On va se l'avouer, hein, c'est souvent la Chine ou le Japon. Mais c'est vrai que l'Asie du Sud-Est, c'est plus rare. Et les bonus le montrent vraiment toutes ces petites influences à droite à gauche. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc effectivement, on va en parler un petit peu. C'est ce qui permet, je trouve que ça permet d'apprécier davantage le film au final. Je disais du coup, Asie du Sud-Est, c'est pas la Chine et le Japon. Donc pour ceux qui sont vraiment nuls en géographie, l'Asie du Sud-Est, c'est quand même 8,6% de la population mondiale. Ce n'est pas rien. Et c'est 11 pays. Donc, entre autres, la Birmanie, Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Timor oriental et Vietnam. Donc, c'est quand même une grosse partie, hein. Et le travail qui a été fait sur ce film afin de respecter ses influences, je trouve qu'il a été monstrueux et très minutieux. Ils ont fait une dream team calée sur le sujet, mais impressionnante. On a quand même entre autres la conservatrice du musée USC Pacific Asia qui a aidé sur les costumes. On a des spécialistes en langue parce qu'il fallait créer une langue qui avait son propre langage mais qui ressemblait quand même à la culture, aux langues de l'Asie du Sud-Est. Je pense par exemple à son papa qu'elle appelle Ba. Et bah, au Vietnam, Ba, c'est le mot que tu mets avant. Alors, par exemple, la mamie, ta grand-mère paternelle, tu vas l'appeler Ba Noi pour dire que le Ba, ça signifie, ça renvoie à ton père en fait. Donc j'ai trouvé ça super, effectivement, qu'ils fassent venir des personnes à droite à gauche pour aider. Il y a aussi des professeurs d'anthropologie culturelle ou encore l'association The Coalition of Asian Pacific in Entertainment, pardon, qui est spécialisée en conseil, consultation et assistance en termes d'inspiration pour les aspects culturels du film. Donc en fait, toutes ces personnes qui sont cultivés, qui sont calés sur ce sujet-là, sont venus, on travaille ensemble, on fait des voyages en Asie pour essayer de s'inspirer, de respecter le plus possible ces influences. Et moi, perso, c'est ce que j'ai préféré dans le film, je pense, avec
Ouais,
l'animation.
moi aussi, en plus, bah, avec mon background d'anthropologie, j'étais hyper sensible de retrouver dans les bonus bah, cet anthropologue qui, en plus, a une spécialité en anthropologie visuelle, qui est vraiment une branche d'anthropologie qui fonctionne hyper bien avec le cinéma, puisque c'est vraiment les symboliques dans les couleurs, dans les motifs, etc. Et donc, du coup, d'avoir un gars comme ça dans le groupe de consultants, c'est. Bah, forcément, ça peut que imprégner de manière vraiment profonde en fait ce qu'on voit à l'écran. Donc c'est ouais, ça m'a beaucoup touché ces bonus de voir ça. Et en fait, on peut le sentir sans avoir tout, sans savoir en fait. On sent que c'est profond, que c'est immersif. Mais en ayant tout ce making-of, ça, là, tu dis ouais, ils ont bien bossé quoi.
Ouais, c'est vrai. Et on voit dans les bonus toute l'influence au niveau des scènes de combat. Et
Oh,
du coup, je trouvais
j'adorais
ça
ça.
sympa qu'on en reparle.
Oh, ouais.
Mais ouais, c'était une partie. Vraiment, si vous n'avez pas vu les bonus, soit parce que vous avez téléchargé illégalement le film et c'est très mal, et du coup, vous n'avez pas Disney+, soit parce que vous n'avez pas eu le temps. Si vous n'avez pas eu le temps, allez les voir, ils sont vraiment top. Et c'est vrai que les scènes de combat, moi, j'ai fait pendant un an du Viet Vo Dao, qui est un art martial vietnamien. Et du coup, alors, je voyais pas vraiment d'influence avec le Viet Vo Dao, mais tu sentais que c'est pas un art martial. Enfin. Qui avait des influences à droite à gauche pour créer cet art martial-là. Et effectivement, dans le bonus, c'est hyper bien expliqué. Donc, alors, j'espère que j'ai bien prononcé, hein, mais pour Raya, c'est un mélange de Pencak Silat de Malaisie et d'Indonésie, avec des armes qui sont basées sur le Kali et l'Arnis des arts martiaux des Philippines. Et son épée, qui a un style très particulier, est inspirée par le kris, une lame vénérée en Indonésie, Philippines, Malaisie et Thaïlande. D'ailleurs, en parlant de l'épée, moi j'ai eu un coup de cœur dessus, je sais pas
Trop,
vous, et
ouais.
j'étais trop déçue qu'il l'ait pas plus exploité. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle l'utilise souvent et tout, et je me suis dit, bon, dommage, mais elle était cool. Et puis le dernier point, c'est Nahamari, elle, sa façon de combattre, on voit qu'en fait, c'est ça qui est marrant, qu'ils ont pas du tout la même façon de combattre, et c'est un hommage à la boxe thaïlandaise, le Muay Thai, et au Krabi Krabong de Thaïlande. Je suis désolée si j'ai mal prononcé, excusez-moi.
Enfin, moi j'ai adoré parce qu'en plus on le sent que Namari elle a vraiment ce même dans le comme on dit le caractère design enfin elle est puissante enfin on voit ses épaules et du coup ça correspond totalement à son style alors que bah, Raya elle est vachement plus mobile virevoltante tout ça donc c'est vraiment chouette et tant qu'on parle des bonus et puis que tu parlais de l'épée justement moi j'ai énormément aimé les scènes coupées qu'ils ont mises aussi dans les bonus qui sont du coup la plupart juste à l'état de storyboard, puisqu'on voit apparaître en fait des pistes qui n'ont pas été retenues finalement, et on voit qu'en fait ça aurait pu être encore plus dans les codes des films d'aventure, fantasy, notamment asiatiques, et notamment avec toute cette... En fait, il y a au moins deux scènes ou trois scènes qui nous donnent un peu ce film alternatif qu'on aurait pu avoir avec une Raya qui est en fait surnommée Dragon Blade à cause de son épée qui aurait dû être vraiment une épée magique en fait, enfin qui aurait pu être une épée carrément magique. Donc en fait, Raya, elle devient cette espèce de... Elle aurait eu cette espèce d'aura d'héroïne solitaire dotée d'une épée magique qui peut combattre les drones, puisque du coup, là, les drones auraient été vraiment beaucoup plus humanoïdes et pas cette espèce de masse informe que je préfère, hein, finalement. Je préfère le côté plus informe, en fait, que le côté très humanoïde, méchant, tribu invasive, quoi. Mais cette épée... allez voir les scènes coupées, parce que du coup, c'est une épée où, en fait, elle active le... Quand elle frappe les drones, elle active l'épée et ça fait exploser les drones, en fait. Et c'est vraiment un truc qu'on voit normalement dans des animés, justement, animés japonais ou ce genre de choses, quoi. Vraiment un style très... encore plus fantasy, pour le coup, asiatique, quoi. Et ouais, ça me plaisait bien, quand même, cet aspect-là, même si bon, j'aime bien ce qu'ils en ont fait, rien que cette épée qui se transforme là, en espèce de grappin, enfin, c'est trop cool, quoi. J'adore. Mais bon, pour ce côté fantasy, moi j'ai adoré aussi cet aspect des plusieurs provinces qui ont chacune leur style et chacune un peu leur culture. Et du coup, bah, encore une fois, j'aurais bien aimé qu'on y passe plus de temps à développer, à en apprendre plus sur ces différences, etc. Et ça reste un petit peu superficiel, mais bon, il y en a assez pour que ce soit intéressant. Et ouais, et du coup, ma cousine encore qui me dit, en fait, ils auraient dû en faire une série, quoi, pas un film, parce qu'il y a vraiment le potentiel pour... pour vraiment un format beaucoup plus long, donc on sait pas, hein, un jour peut-être.
Ben oui, hein, pourquoi pas un spin-off, ce serait pas mal, sur
l'histoire
des provinces du royaume, un peu comme dans Goth au final, avec un beau background de chaque cité, cœur du dragon, griffe de dragon, déjà comme ça, je trouve que les noms, moi ça m'a fait penser un peu à Game of Thrones, quoi, dans le style, et ça serait vachement sympa.
Ah, ce serait trop bien. J'ai juste peur qu'il le fasse pas parce que comme il est sorti que sur plateforme, ça ramène moins d'argent. Donc forcément, est-ce qu'ils vont se lancer ? Je sais pas. Mais sinon, je vote pour à 100%.
Ouais, moi aussi. Mais en plus, ils font des séries animées dérivées de dessins animés, de longs métrages d'animation. Donc c'est pas... Peut-être. Mais c'est vrai que ça va être un peu plus difficile pour eux de se lancer là-dessus en n'ayant qu'un retour partiel, en fait, puisqu'ils n'auront pas vraiment... Ils ne peuvent pas vraiment se baser sur le box-office, etc., pour se dire est-ce qu'il y a un marché derrière qui attend ça. Donc, ça va être plus difficile pour eux de se lancer, mais bon, il y a carrément de la matière, quoi, c'est clair.
Et alors, sinon, je ne sais pas si ça vous avez fait la même chose, mais moi, certains tableaux, et même l'épée qui faisait en même temps crochet, enfin, qui se défait et qui fait comme un fouet avec des pics, etc., ça m'a un peu fait penser à l'univers de Star Wars. Notamment lorsque Raya affronte Namari là, dans la neige, sur laquelle sont tombées des feuilles un peu rouge sang, comme ça. D'ailleurs, je pense que c'est des érables du Japon, ce qui collerait avec tout l'univers asiatique. Et ça m'a vraiment fait penser à la scène de l'épisode... C'est dans quel épisode où il y a les...
8.
Ouais, l'épisode 8, ça m'a vraiment fait penser à ça, avec cette grosse différence, ce contraste entre le blanc, le rouge, où toutes les images étaient très bien découpées, etc. Il y avait vraiment ce côté combat épique qu'on peut retrouver dans des Star Wars. J'ai vraiment bien aimé.
Ouais, c'est vrai.
Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai vu pas mal de références. J'ai vu pas mal de parallèles, ouais, effectivement, avec Star Wars. Mais rien que dans le personnage de Raya, et puis...
Mais ouais.
C'est vrai que j'ai vu aussi. Mais du coup, ces feuilles rouges sur la neige, ça fait penser aussi un peu à Game of Thrones.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Dans le nord, ouais.
Ouais.
Il y a ça aussi.
Mais même la tenue de Raya, au final, avec cette espèce de bande attachée à la taille, on dirait un peu la tenue de Rey, au final, avec le petit pantalon.
J'y ai pensé au début, ouais.
Le bâton et tout ça, il y a vraiment un côté un peu Rey. Et moi, Rey, je l'adore, c'est vraiment un de mes personnages préférés de la nouvelle saga. Ouais. Si pas, c'est mon personnage préféré, je pense. Et elle est terrible, quoi. Et je trouve que, allez, c'est un beau flambeau pour les femmes. C'est vraiment bien, quoi, d'avoir des personnages comme ça, forts,
Ouais, mais après ça se tient vu que du coup Star Wars quand même pioche beaucoup d'inspiration, même esthétique, dans les costumes, dans la culture asiatique,
Ouais.
notamment pour les Jedi. Donc ça se tient en fait au final
Ouais,
que
c'est vrai.
la boucle est bouclée.
Ouais.
Voilà pour peut-être notre tour de tout l'univers et les personnages, mais il y a plein d'autres choses qu'on a adorées dans ce film et je pense que il faut qu'on parle de la musique, notamment.
Ouais, on va faire une petite liste de tout ce qu'on a aimé avant de passer à ce qu'on a moins aimé. Et ouais, la musique, ça vient en top 1, t'as raison.
Ouais, donc réalisé par, composé par James Newton Howard, que j'aime beaucoup, hein, c'est un de mes compositeurs préférés de ces dernières années, notamment pour son travail sur les animaux fantastiques, mais il a fait aussi la musique de plusieurs Hunger Games, et enfin, il en a fait plein, hein, franchement, allez regarder, une liste extensive et je le trouve bah, toujours au top, à la fois pour ses thèmes qui justement j'ai trouvé notamment le thème de Sissou, il fait beaucoup penser à certains thèmes des animaux fantastiques. Donc après voilà, dragon, animaux fantastiques, ça se tient. Mais
vrai, c'est vrai.
surtout, je pense que le gros point positif de la musique, c'est son côté épique et puis du coup bah, toute la recherche qu'il y a eu derrière pour inclure des sonorités et des instruments bah, d'Asie du Sud-Est, évidemment. Donc et ça rend super bien quoi.
Ouais, je suis d'accord, moi j'en parlais tout à l'heure, elle m'a vraiment mis la chair de poule et elle m'a beaucoup rappelé sur le moment les danses balinaises que j'ai été voir en Indonésie il y a quelques années. Et c'est vrai qu'en voyant les bonus, j'ai compris pourquoi. Hein. Ils expliquent qu'ils ont fait effectivement un voyage qui pour les aider à respecter toutes ces influences asiatiques et puis s'en imprégner. Et qu'ils ont assisté à un atelier gamelan. Donc, le gamelan, c'est un ensemble de musique traditionnelle originaire de Java et de Bali, justement. Et que bah, le nom du gamelan, il est utilisé pour parler de la musique jouée. Et en fait, il désigne surtout le nom de l'orchestre et l'ensemble des instruments. Et ça vient du mot gambel qui signifie frapper en javanais. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'on a aussi toutes ces additions de percussions, d'instruments faits de cuivre ou de fer, des fois, comme c'est un peu moins cher. Et c'est incroyable. Et je pense qu'on va forcément mettre un petit extrait dans le montage.
Ouais, non, franchement, cette musique, elle est vraiment chouette et je pense que il y a des morceaux que je vais me réécouter régulièrement. Donc, c'est rien que pour ça, je retiens ce film et je vais le garder précieusement. Et du coup, bon, bah, autre chose dont on a déjà pas mal parlé, mais c'est visuellement que c'est évidemment époustouflant, super beau. Alors, pareil, première réaction de ma cousine quand on a lancé le film. Alors, elle, en plus, elle est dans le milieu, hein, puisqu'elle fait des études artistique et notamment en concept artiste, tout ça, et en animation et tout. Elle dit, et première réaction, elle fait genre, oh, les tissus, ils sont trop bien faits. Donc voilà, un œil averti reconnaît déjà ces détails-là.
Ouais, c'est clair. Moi, j'ai pas arrêté de dire à mon copain, mais c'est trop beau. Et à chaque fois qu'il y avait une simple image, mais vraiment qui dure peut-être quelques secondes, je lui disais, regarde comme c'est beau, tous ces détails, c'est magnifique. Et lui, bon,
Ah ouais.
lui, il est très lisse dans ses réactions. Donc, ouais, c'est pas mal.
On a le même Clem.
Ouais. Ouais, c'est ces hommes blasés. Mais non, mais moi, c'était une de mes premières réactions aussi de me dire, mais en fait, il y a plein d'images que j'ai envie de prendre en screenshot pour m'en faire des fonds d'écran, parce qu'il y a vraiment des compositions sublimes et avec des lumières et tout, trop trop belles, quoi. Mais il y a eu quand même quelques débats sur le design des dragons. J'ai vu notamment sur le Discord de MSA où ça faisait pas l'unanimité. Donc, je sais pas si qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai bien aimé. J'ai
Oui,
bien aimé.
bah, moi ça m'a pas choqué non plus. C'est vrai que j'ai lu que quelques personnes étaient un peu déçues. Pour moi, un dragon, c'est pas forcément le dragon méchant, qui fait peur, qui crache du feu, voilà, qui est tout gros. Là, c'est une autre symbolique. Alors, toujours dans les bonus, qu'on fait beaucoup référence, mais ils sont vraiment bien faits. Hein. On l'a pas assez dit.
Dans les bonus, ils expliquent que Sisu, c'est un hommage aux Nagas, qui sont des serpents d'eau, des créatures divines qui protègent les ressources naturelles. Et du coup, bah, le design, il fait sens. On ne va pas mettre un gros dragon terrifiant qui ressemble pas du tout à un serpent d'eau. Donc, ça fait complètement sens. Et puis, pour les couleurs, bah, faut savoir que dans ces pays-là, les couleurs, c'est important. Enfin, moi, quand j'ai vu le spectacle de danse à Bali, c'est des couleurs très flashy, très criardes, vraiment hyper diverses, qui ne vont pas forcément toujours toutes ensemble, mais, mais ça surprend. Et je vois pareil, les dragons qu'on appelle licornes au Vietnam, ils sont très colorés, rouge, jaune, c'est vraiment très flash. Donc moi, j'ai trouvé que non, c'était des belles couleurs, au contraire, hein, toujours aussi flashy, mais plus magique, entre guillemets, avec... Ça m'a, au contraire, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas trop compris les personnes qui... Enfin, c'est pas que j'ai pas compris les personnes qui étaient déçues, mais moi, je me suis dit que ça faisait sens et que ça aurait été bizarre si ça ressemblait pas à ça.
Ouais, moi, je les ai trouvés super beaux.
Mais c'est marrant que t'aies dit dragon licorne, puisque c'est exactement ce qu'a dit ma grand-mère, que c'était que Sisu, c'était un dragon licorne. Alors, je pense que c'était plutôt vis-à-vis des couleurs,
les couleurs pastel.
C'était une autre.
Ouais. Oui, mon mari est d'origine vietnamienne et du coup, au Vietnam, ils ont la danse du dragon, enfin, la danse de la licorne, pardon, et en fait, pour moi, ça ressemble à un dragon, mais au dragon tel que nous, on les connaît. Et du coup, on en a un, malheureusement, dans notre salon énorme. et donc, ça m'a fait directement penser à ça, effectivement, ça ressemble à un dragon, mais ils appellent ça une licorne, mais on a tous ces couleurs flash, quoi.
Après, ça reste dans l'imaginaire, au final. Donc, licorne, dragon, c'est des créatures un peu magiques qui font penser à Harry Potter aussi, au final. Hein.
C'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Totalement vrai. Ouais.
Et autre remarque sur le design, notamment de Sisu, ça, c'est ma cousine encore, qui me dit, par contre, la tête de Sisu en dragon, hein, elle dit, c'est Elsa version dragon. Et c'est vrai qu'elle a les mêmes yeux, la même palette de couleurs.
Moi, elle m'a fait penser à un petit poney. Vous voyez, petit poney. Oh. Je trouvais qu'il y avait un peu ce côté-là, avec la truffe un peu en trompette, là, truffe-nez, je ne sais pas quoi dire. Je trouvais que c'était... il y avait un côté petit poney. Et puis, les couleurs pastel, à mon avis, aussi, ça joue.
Sûrement, oui.
Mais c'est vrai que les couleurs détonnent par rapport à tout le reste, mais je pense que c'est fait exprès, c'est normal. Enfin, je trouve que... Ça fait sens.
Le côté magique.
C'est logique.
Ouais, non, moi, ça m'a pas...
Oui, c'est ça. Ouais. Au final, ça m'a moins choquée que dans Soul, où on a, pareil, deux palettes qui sont totalement différentes. Où là, quand on arrive dans le grand avant, dans Soul, où je me suis dit, oula, ok, c'est sympa, c'est original. J'espère qu'on va revenir à l'autre animation, quand même.
Ouais.
Alors que là, non, je trouvais que ça s'intégrait quand même bien. Par contre, il y a un autre truc que j'ai adoré. Alors, c'est pas hyper intéressant, hein. C'est pas grand chose, mais c'est la symbolique de la soupe. Moi, j'ai adoré cette soupe, donc il fallait que j'en parle, avec le citron vert, la citronnelle, les piments, le sucre de canne, où chacun, c'est la spécialité d'un pays, et c'est quand on les met ensemble qu'on crée une soupe à l'harmonie parfaite. Alors, ça me fait penser à ce qu'on appelle l'unami en cuisine, donc quand tous les goûts s'harmonisent, le sucré, salé, l'épicé, la mer s'harmonisent à la perfection. Et en fait, ça reflète totalement l'équilibre à atteindre pour vivre ensemble, heureux, toutes les populations, et je trouvais ça, je sais pas, j'ai adoré cette symbolique. Je sais pas vous, si ça vous a autant marqué que moi.
Ah non, moi ça m'avait vachement marqué. Je pense que c'est important. D'ailleurs, c'est le dernier bonus que je n'ai pas regardé là sur Disney+, parce qu'il est beaucoup plus, enfin il est plus long, il fait 23 minutes. Ils ont fait du coup une vidéo de 23 minutes de discussion rien que sur la nourriture. Donc à mon avis, c'est pas du tout un détail, je pense.
On aurait dû se mettre d'accord, c'est le seul non plus que j'ai pas vu.
Mais il était long quand même, donc c'est... En plus, c'est dur à faire, hein, j'ai eu des avis aussi sur le fait que c'est très dur à rendre la nourriture en animation et que ça soit appétissant, et j'avais envie de la goûter, cette soupe, donc...
Ah oui, ça me donnait tellement faim.
Ouais, moi aussi. Enfin, l'aspect symbolique que t'as évoqué, Charline, j'y ai pas du tout pensé. Après, j'ai pas regardé les bonus, donc... Enfin, ça m'a pas. Et puis, je m'y connais pas très bien en culture asiatique, etc. Mais par contre, qu'est-ce que ça m'a donné faim? J'avais envie d'aller manger un faux dans la minute, quoi. parce qu'on a un super bon, resto dans ma ville qui fait des faux mais délicieux. Et donc, j'avais qu'une seule envie, c'était d'aller m'en chercher. Hein.
Tellement. Je vais en faire. Je vais en faire un ce soir.
On va tous débarquer chez toi.
Vous êtes un peu loin, hein. Je suis désolée, mais...
On peut peut-être passer, bon, quelque chose dont on a déjà un peu parlé, mais sur lequel on peut revenir quand même, c'est le message, la morale, la grande thématique du film. Et en fait, j'ai trouvé quand même qu'elle se distingue un peu de pas mal des Disney depuis les années 90, où j'ai l'impression que la plupart parlent plus de confiance en soi, de s'épanouir individuellement, enfin vraiment de se... Ouais, vraiment plus tourné sur l'individuel, on va dire, même s'il y a toujours question de sauver le monde quand même. Mais là, c'est vraiment la confiance en les autres qui est au centre, et j'ai trouvé ça... Je trouvais quand même que c'était un peu différent quand même de ce qu'on avait, même si l'histoire en elle-même est très prévisible, et comme tu disais, ça finit presque trop bien, en fait. Tu dis, bon, il aurait pu peut-être y avoir un sacrifice ou quelque chose, je sais pas.
Ah ouais, mais, j'aurais bien aimé un petit drame à la fin, moi.
Ça manquait un peu. Et ça, ça c'est justement, Captain Popcorn le dit dans sa petite vidéo de critique.
Ah,
et
bon, bah voilà.
C'est pas faux, ça manque... Ça manque d'un sacrifice. Là, ça aurait fait encore plus Star Wars, mais ça manquait quand même d'un petit sacrifice. Mais bon, le message quand même de vraiment plus tourner sur la communauté, la confiance dans les autres, était quand même vraiment pas bienvenu, quoi. Et justement, dans les bonus, ils insistent en plus à fond sur le fait que voilà, le film a été fait en pleine pandémie. Et d'ailleurs, on n'en a pas reparlé, mais... La performance que ça a été de finir ce film, parce que quand même il y a une grosse partie de la production qui s'est faite totalement chacun chez soi, et c'est quand même une performance incroyable de ce qu'ils ont réussi à faire en étant tous en quarantaine pendant des mois. Donc que ça a encore plus donné du sens à ce fond de la communauté, de faire confiance à l'autre. Voilà, c'est comme ils disent à un moment, on voyait qu'on parlait de ce qu'on vivait, nous, dans la vraie vie, plus que seulement de cette histoire-là. Donc, c'est assez marquant, quand même.
Ouais, non, totalement. Et je rajouterais même aussi celle du pardon. Pour moi, je trouve que l'histoire, elle nous montre qu'il faut oublier les préjugés qu'on a sur les autres, ok, apprendre à faire confiance, ok, mais surtout mettre sa fierté de côté, oser faire le premier pas vers l'autre en pardonnant. Parce que dans le film, Raya, elle pense que c'est la faute des hommes si le monde va mal, et que c'est à cause d'eux que la confiance entre les peuples a disparu, alors que Sissou, elle essaye de lui expliquer que non, c'est justement... le monde va mal parce que la confiance a disparu et que c'est le premier pas vers un nouveau monde, donc c'est de tendre la main vers les autres, de se refaire confiance et de pas rester bloqué sur c'était mon amie, elle m'a trahi une fois, elle me trahira toute la vie, j'arrête là, quoi. Et ce côté, faire confiance à l'autre et pardonner les erreurs, les échecs, le passé, je trouvais ça assez sympa.
Ben, moi, je trouve aussi que l'aspect géopolitique, parce que vous allez dire que je vais peut-être un petit peu loin, mais moi, ça m'a un peu fait penser à tous ces traités après la Deuxième Guerre mondiale, où finalement, on fait table rase du passé et des erreurs des autres pays, les guerres, etc. Et on crée une Europe unie, etc. Et donc là, il y a un peu un côté aussi géopolitique qui est finalement qui est super intéressant et innovateur, parce que c'est peut-être une des premières fois que Disney traite de sujets comme ça. Donc, ça sort vraiment, je trouve, des classiques habituels.
Ouais, totalement. C'est vrai qu'on d'habitude, on a un peu ce côté manichéen, un méchant vs la gentille princesse un peu naïve. Et puis là, finalement, on n'a pas vraiment de méchant. À la fin, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde s'adore. À part les drumes, là, mais on entend à peine parler, donc je dirais pas que c'est un méchant. Et on s'intéresse un peu, effectivement, à la politique... du pays. Après, je pense que ça aurait pu être un peu plus poussé, un peu plus approfondi, ça reste très superficiel, mais je salue l'originalité et la prise de risque.
Ouais, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Après, pour venir sur les drones et ce que tu disais là sur d'où vient que le monde va mal, pour moi les drones, enfin, je pense que c'est implicite, mais c'est quand même... Je pense qu'à un moment Sissou le dit, mais je suis pas trop sûre, faudrait que je le revoie à nouveau. Mais en fait, au début, c'est présenté comme si les drones apparaissent un peu de nulle part et c'est eux qui sont à l'origine de tous les maux du pays et qui font le début de la fin du monde, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, on comprend que les drones, c'est les humains qui les ont créés, en fait. Enfin, c'est les humains qui se faisaient plus confiance. Et du coup, c'est le manque de confiance et le manque de coopération entre les humains qui ont créé les drones, qui ont du coup... les drones sont une manifestation de ce qui allait plus entre les humains, en fait.
Ouais, c'est leur part d'ombre.
C'est ça. Et du coup, il y a ce côté un peu symbolique des drones qui... c'est pour ça que je disais que j'aime bien qu'ils soient complètement informes, en fait, parce que c'est vraiment une idée, les drones, plus qu'un ennemi envahisseur, quoi. Mais c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, Charline. C'est Raya pense que c'est à cause des drones, c'est à cause de la catastrophe que les humains ne se font plus confiance, alors que c'est parce que les humains se font plus confiance que ça va mal, que le monde va mal. Donc c'est assez intéressant comme idée, même si c'est symbolique et tout ça. Mais en parlant de ces symboles, encore une fois, là je vais pouvoir enfin parler de la scène coupée dont je voulais parler au début de l'épisode, qui s'appelle The Heart of the Dragon, donc le cœur du dragon, que j'ai trouvé mais sublime, en fait. C'est très court, c'est 3 minutes, avec l'intro en plus qui nous explique le contexte. Et ça explique en fait qu'à un moment, le thème, il était plutôt centré sur l'espoir plus que sur la confiance, et surtout l'espoir qui peut inspirer la communauté et qui fait que la communauté se rassemble. Et en fait, on voit... Et en fait, ça m'a donné des frissons. Alors, je ne sais pas si je vous laisse découvrir... je ne vais pas trop en dire pour vous laisser découvrir quand même la surprise de ce qu'il y a dans ce petit extrait. Ça fait encore plus un parallèle avec Star Wars, sur la lumière qui inspire d'autres lumières, etc. Mais c'est vraiment très, très beau. Alors, je comprends et j'apprécie qu'ils aient recentré le film plutôt sur la confiance et le pardon. Mais quand même, s'ils avaient gardé cette scène, je pense que ça aurait été ma préférée du film. Donc, je voulais la retenir. Et quand on parlait de Sissou tout à l'heure, ça m'a fait penser que cette scène là du cœur du dragon... avec la symbolique, vous parliez de Sissou, quel est son véritable pouvoir. Bah, je pense que c'est lié à cette scène du cœur du dragon, de la lumière qui inspire les autres lumières. Je pense qu'elle est liée.
Je l'ai pas vu, je vais aller la voir. Ah, moi aussi, j'irai voir.
Je vous ai dit en gros de quoi ça parle, mais je vous laisse voir visuellement ce que ça donne. Mais évidemment, c'est que des storyboards, donc c'est stylisé. Mais c'est une très 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 belle idée, je trouve. Bon, on a parlé de tout ce qu'on a adoré, mais il y a peut-être des choses qu'on a. Bon, on a parler de quelques petites choses qu'on a moins aimées, mais peut-être d'autres choses qui portent à débattre. Et j'ai vu quelques retours de gens qui avaient été moins emballés quand même par Raya, sans le détester, mais qui disaient déjà que ça faisait moins Disney. Je pense notamment au retour qu'a fait Pixie sur sa chaîne, Pixie Tubeuse. Et je pense que ça doit résonner quand même avec pas mal de gens, pas mal de fans Disney. Sur le fait que toutes ces choses nouvelles dont on a parlé, ça fait perdre certains côtés qu'on peut attendre dans un Disney. Alors je sais pas, j'ouvre le débat, est-ce que ça vous inspire ce côté film Disney, pas totalement Disney, pas totalement ce qu'on attend d'un Disney, je sais pas.
En fait, je pense que quand on voit une héroïne fille dans un Disney, on s'attend à ce qu'il y ait de la romance, à ce que on s'attend à une réponse, à une Blanche-Neige, à une Belle, à une... Voilà, on s'attend à ce genre de choses. Mais quand on regarde, il y a d'autres Disney qui n'ont rien à voir, parce que je rappelle que Atlantide, c'est un Disney, La Planète des Trésors, c'est un Disney, Cars, c'est un Disney, Dumbo, c'est un Disney, et ils ont vraiment des caractéristiques hyper différentes. Donc pour moi, je vois pas en quoi ce serait moins un Disney. C'est juste que on a les codes entre guillemets de classique qui pourtant ne ressemblent pas du tout à un classique. Je sais pas si j'étais très claire.
Ouais, si, je suis d'accord. Et je pense qu'il y a le côté de ce qu'on disait en fait au tout début, de se dire on attend. Je pense qu'aussi quand on regarde un Disney, on attend justement une implication émotionnelle particulière. Où là, c'était pas la corde sensible, n'était pas le cœur du film, comme on l'a dit. Donc c'est peut-être ça aussi, le fait qu'on n'est pas touché de la même manière par ce film que par d'autres, que ça fait appel à d'autres choses. Donc c'est peut-être ça aussi, je ne sais pas.
Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Mais en plus, j'ai écouté dernièrement un épisode, je ne sais plus lequel, de Chronique Disney, où un des intervenants disait que qu'il y avait énormément de fans qui disaient « Oui, mais si Walt était encore là, il ne serait pas du tout d'accord, il n'aurait jamais fait ça, il n'aurait jamais fait ce film, etc. » Mais en fait, de un, qu'est-ce qu'on en sait ? Et de deux, l'univers...
Qu'est-ce qu'on s'en fiche ?
Bah oui, c'est ça, et qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Parce qu'au final, l'univers Disney, maintenant, il est tellement vaste que est-ce qu'on peut encore dire que tel ou tel film fait Disney ? Pour moi, non, parce que bah oui, quand on regarde tout le panel que Disney nous offre aujourd'hui, on a du Star Wars, on a des Marvel, on a des dessins animés, on a du Pixar, on a tellement de choses différentes que maintenant, pour moi, tout peut rentrer dans un Disney, en fait. Quand on sait qu'ils ont racheté Deadpool aussi, au final, Deadpool qui est quand même super irrévérencieux, un peu vulgaire par moment, est-ce qu'un jour, on aurait pu se dire, bah, ça, c'est un Disney ? Bah non, bah, pourtant, voilà, maintenant, Deadpool sera un Disney. Donc, voilà, moi, je trouve qu'il faut arrêter de rentrer dans des carcans quand il s'agit de Disney. Et je trouve que c'est bien, justement, bah, qu'il y ait de la nouveauté, qu'on sorte de tous ces codes, etc., qu'on nous a trop mis dans la tête pendant longtemps, et bah, de faire découvrir et de faire rentrer des nouveaux sujets, bah, que ce soit l'acceptation, la confiance, le pardon, ou comme tu disais tout à l'heure, bah, les relations homosexuelles, des choses comme ça qui ne sont encore pas assez traitées, et que bah, c'est bien que Disney... rentre là-dedans et peut-être en face aussi plus tard son fer de lance, quoi.
Je pense qu'il y a encore cette catégorie à part des classiques d'animation, puisque c'est quand même désigné comme un des grands, voilà, c'est désigné comme les longs métrages classiques d'animation Disney qui sont encore censés être un peu cette vitrine de la firme Disney à côté de tout l'empire qu'ils ont. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a ce débat sur ces longs métrages d'animation qui n'a pas lieu d'être, bah voilà, quand on a un film Marvel, quand on a un Star Wars, quand on a autre chose. Bon, oui, il y a des débats sur autre chose, mais, mais du coup, je suis complètement d'accord avec vous, hein, que ça doit évoluer, et heureusement que ça évolue.
Ah, parce que quand on voit le rachat de Star Wars, là aussi, il y a eu « oui, mais c'est pas Disney », etc., etc. Mais oui, c'est vrai que les classiques, ça restera toujours les classiques, mais moi, personnellement, je comprends pas trop le débat, parce que bon, il a Raya à sa place dans un classique. Et comme tu disais, Charline, Atlantide, finalement, il n'y a pas vraiment... Oui, il y a une princesse, mais bon, voilà. C'est pas du tout Blanche-Neige ou Cendrillon, quoi. Et pourtant, ça fonctionne quand même.
Puis un Disney des années 90, c'est déjà très différent d'un Disney des années 50. Enfin, c'est normal.
Ouais.
Non, la seule chose qui pourrait faire, effectivement, que ça fasse entre guillemets moins Disney, c'est qu'il y a quand même beaucoup de Disney où il y a des chansons et que là, il n'y en a pas. Mais encore, c'est même pas tous les Disney.
C'est vrai. Il y a une petite chanson quand même. Il y a Raya qui, quand elle fait son rituel pour invoquer Sissou, elle chante. Donc voilà, quand même.
Oui, ça reste. Et puis dans le générique de fin, il y a une chanson.
Oui. Mais est-ce que ça vous a manqué du coup ? Moi, ça m'a pas spécialement manqué. Même si, quand on regarde le casting, quand même, on se dit, ils avaient de quoi faire chanter. Parce que Kevin Aucoafina chante. Ils avaient Aucoafina. Ouais, non, franchement, il y avait de quoi faire chanter, mais...
Même Angoun, hein.
Mais bon.
Angoun, au final, pour la version française.
Angoun en français, ouais.
Elle a une super belle voix, elle a une voix magnifique, Angoun, donc... Et en fait, j'ignorais totalement qu'Elie Marie Tran chantait, donc je suis allée voir sur YouTube ce que ça donnait. Effectivement, elle a une super jolie voix.
Ouais, c'est vrai que... Bah, en fait, vu le film, j'aurais pas vu des chansons. Honnêtement, quand tu vois le film, tu vois pas une chanson au milieu, ça aurait fait vraiment bizarre. Mais c'est vrai que après la réflexion, tous mes classiques préférés dans les Disney, c'est avec chansons. Et ce qui va me marquer, c'est les chansons. Et quand j'ai un peu pas le moral, je vais me mettre des chansons. Donc c'est vrai que ça peut manquer dans ce sens-là. Maintenant, pour ce film-là, il n'y avait vraiment pas besoin et ça aurait fait cloche, tâche, je ne sais plus comment on dit.
Cloche, tâche, oui, deux marches, je pense. Mais en plus, quand on parlait du rythme et de à quel point ça s'enchaîne, et que, enfin, franchement, il n'y a pas la place, hein, vraiment pas la place de mettre une chanson au milieu. Il se passe déjà tellement de choses, il y a tellement de... Ouais, enfin, d'enchaînement que, bah, qui se pose pour chanter, ça aurait été un peu étrange. Mais...
Et on arrive à la fin de notre épisode.
Oui. Bah dis donc, on a vu des choses sur Raya. On a tous envie de aller le revoir pour aller explorer ce qu'on a discuté.
Moi, je pense que je vais le voir en VF quand même.
Ben moi, je pense que je vais le voir en VO.
Bah ouais, moi aussi. Je pense que je vais le voir en VO. Vous me direz quelle version vous avez préférée.
Bah moi, j'ai trouvé que Géraldine Nakache, elle était vraiment super drôle, quoi. Enfin, j'ai énormément rigolé pendant la version française avec Sissou. Elle est vraiment drôle.
J'ai trouvé aussi, mais bon, je suis sûre que Aucoafina va me faire beaucoup rire aussi. Bon, bah maintenant, on attend Luca, notre Pixar de l'été, qui ne sera pas en salle non plus.
Non. Voilà. Tu te fais du mal, mais Marjo.
Bon, pense à, on attend aussi chez les Disney Cruella, qui sera en salle dans une semaine.
Ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'est pas un film d'animation, donc.
Non, c'est vrai.
Ça serait bien qu'il redonne un peu. La vitrine qui mérite à l'animation, parce que quand même c'est quand même leur truc à la base, donc ça serait chouette.
Il n'y a pas Encanto qui va sortir aussi un des prochains.
Ouais, mais c'est pas encore
oui, c'est encore pas tout de suite, hein. Mais du coup lui il sera forcément en salle, l'épidémie sera terminée, enfin, j'espère.
J'espère aussi.
Si un jour elle se termine.
Ouais.
Après il est prévu pour novembre 2021.
Ah bon?
Donc,
ah, c'est pas si long.
Ouais. Oui.
Ah ouais, c'est pas si dans longtemps que ça, en fait. Oui. Je pensais que c'était l'été prochain, moi.
Bah, moi aussi. Et là, je viens de le taper, ou à moins que ça ait changé depuis, mais... Après, ce serait logique, hein, c'est le Disney de Noël, puisque là, ça aurait dû être... Raya aurait dû être le Disney de Noël 2020, donc le Disney de Noël 2021, c'est censé être Encanto.
Ah bah, on va croiser les doigts, et on va attendre.
Mais bon, en attendant, pour continuer votre dose mensuelle de Disney+, je rappelle que vous pouvez aller écouter Il était un plus, évidemment, avec notamment Charline et Clem. Donc, il y a de quoi faire pour vous donner votre ration de Disney. Puis nous, bah, on va probablement reparler de contenu Disney+, dans pas très longtemps, puisque comme on parlait dans notre petite pré-intro, il y a Loki qui sort en ce moment, donc... Voilà.
Oui, oui. Bon, bah écoutez, passez une bonne journée. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, à bientôt.
Et puis, bah surtout, merci à Clem d'avoir été notre
invitée. Ah oui, mais oui, que je suis bête. Merci à Clem.
En fait, j'ai l'habitude d'enregistrer avec Clem, moi, c'est
ouais,
bon
c'est
maintenant.
Ça. Ouais.
Je fais partie des murs,
partie
en fait.
L'équipe,
en
Ouais, merci beaucoup d'avoir accepté d'enregistrer avec nous. Ça nous a fait très plaisir de t'avoir et on a beaucoup rigolé avec nos débats d'enregistrement du début.
Ouais, c'est clair.
On souhaite bon courage à Marjo pour le montage.
Ça va le faire. Et puis encore merci pour ton magnifique logo.
Mais avec plaisir.
Très, très contente.
Ah ouais.
Avec grand plaisir. Merci à vous de m'avoir invitée.
Et on vous dit cette fois-ci à la prochaine fois.
On va y arriver.
On est toujours aussi nuls en transition.
C'est ça. À bientôt.
Au revoir.
À bientôt.
Charline,
pardon.
Si
oui, j'étais en train de réfléchir comment je rebondis. Je suis désolée, je suis vraiment fatiguée. Hein.
C'est pas grave.
Oui, et.
Je me suis dit, on m'entend plus, ça y est, j'étais perdue.
Non. Tu sais, c'est comme la fois où c'était moi qui devais parler pour dire bienvenue et qu'on attendait, il y a eu un gros blanc de 3 minutes.
Et moi, je hochais la tête encore en silence. Oui, oui.
C'est pas très radio, très adapté à la radio, d'hocher la tête.
Tout à fait. Bon, attends, je reprends. J'ai oublié où on en était maintenant. Si, du coup, je dois... Si, le fait qu'il y ait le pardon aussi, en plus que la confiance. Ok.